7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Rares sont les jours où on ne parle pas d'eux.
À bord de barques à moitié pourries, ils sont chaque année des dizaines de milliers à tenter leur chance vers l'Europe.
Sur place, plusieurs milliers de migrants rêvent toujours d'une vie meilleure.
Les sauvetages de migrants en mer.
La question des migrants,
c'est par ici que les migrants tentent leur chance.
Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, les catégories ne manquent pas pour les définir, mais laissent-elles voir la diversité de leurs histoires, de leurs parcours, de leurs situations en France? Ils sont rassemblés sous ces étiquettes comme une foule sans visage. Alors nous parlons d'eux aujourd'hui, alors que le projet de loi très contesté pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, c'est son nom, doit être examiné d'ici 3 semaines à l'Assemblée nationale. En 2017, plus de 100 000 demandes d'asile ont été déposées en France, un pic sans précédent, et si nous écoutons ceux qui se cachent derrière ces chiffres, quels traumatismes portent-ils en eux, gravés, et à quelles difficultés font-ils face à leur arrivée en France? Nos deux invités du jour sont allés recueillir leurs paroles, chacun à leur manière. Bonjour Rachid Oujdi.
Bonjour.
Vous êtes documentariste et vous avez réalisé Récit d'une jeunesse exilée, j'ai marché jusqu'à vous. On y voit plusieurs mineurs, des enfants venus seuls d'Algérie, du Ghana, du Nigeria, du Mali, et j'en passe. Vous les suivez dans leur quotidien à Marseille, dans des centres ou la rue dont on a peur qu'elle les avale. Et bonjour Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne à Bobigny en région parisienne. Vous êtes également enseignant-chercheur en anthropologie à l'INALCO. Et de 6 ans de consultations menées de 2010 à 2016 avec des personnes migrantes, vous publiez un très beau livre, dur mais nécessaire, La voix de ceux qui crient.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, reportage. Ils ont moins de 18 ans et dorment à la rue. Fraîchement arrivés en France, des mineurs venus sans leurs parents doivent faire reconnaître leur minorité auprès de l'aide sociale à l'enfance. En attendant la décision du juge, ils ne sont pas mis à l'abri, donc ils restent à la rue, exposés au froid, aux raquettes et à d'autres dangers. Porte de la Chapelle, au nord de Paris, une association, Utopia 56, leur offre des boissons chaudes et se démène pour leur trouver une solution temporaire d'hébergement. Antoine Lalanne-Desmé, si rendu un soir de neige, il a rencontré Ali, sac de sport sur l'épaule, une couverture à l'intérieur.
J'ai pas d'argent, j'ai pas un travail, j'ai pas une carte d'identité, j'ai beaucoup de problèmes avec les contrôles de police. La seule solution pour dormir, je viens ici à la porte de la Chapelle pour tenter la chance.
Vous avez quel âge vous là?
Maintenant 17 ans, le mois août 18 ans.
Et ça fait combien de temps que vous êtes en France là?
Ça fait 2 mois.
Vous venez d'où?
Je suis un Algérien.
Pourquoi vous êtes parti d'Algérie?
Parce que j'ai rien. Ma mère elle est morte, mon père elle est mort. J'ai seulement ma soeur. Ma soeur elle est mariée. C'est interdit. Moi je reste avec ma soeur. J'ai compris, elle est mariée, elle a 2 enfants. Moi je prendrai un zodiac pour passer sur là, d'un autre côté, c'est tout.
Vous êtes passé par la Méditerranée, donc dans un zodiac, c'est un bateau gonflable.
Dans un zodiac, dans un bateau, 45 personnes.
Vous avez payé un passeur?
Oui, 500 euros, 800 euros, comme ça.
Et pourquoi vous êtes venu en France? Qu'est-ce que vous espérez trouver?
Je cherche un travail. Et après, louer une petite chambre, retrouver une fille.
Et vous pensez que vous avez plus de chance en France qu'en Algérie?
J'espère. Oui.
Ok, Samson, Bilouille.
Samson, Samson.
Bilal, Adam. Vas-y.
Jeanne est en train de donner les noms des personnes pour qui ils ont réussi à trouver un hébergement.
Fouchot.
Ils vont aller dans quelques chambres d'hôtel qui sont payées.
Mali Mohamed.
Ali Mohamed, c'est moi.
Fouchot Razvi.
Fouchot Razvi, on l'a eu ou pas?
Et Ali fait partie de ces gens-là, donc ce soir, il ne dormira pas dehors.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est moins 3, moins 4.
Vous avez dormi où hier soir?
Dans la rue.
Là, en ce moment, il fait autour de 0 degré.
Oui,
et vous avez juste un simple blouson, un jean.
Non, je l'ai mis une couverture et je l'ai entré dans un garage ici.
Bonjour, ça va?
Ça va?
Ouais. Tu as dormi où hier?
Il a pas dit à l'hôtel.
Ok, est-ce que tu peux prendre son nom?
Kanté Mamadou.
Kanté Mamadou. Il était à l'hôtel ou en hébergement citoyen? J'ai cru voir son nom en hébergement citoyen. 14 ans. Kanté Mamadou. Ok. Ouais, attends, on fait un par un, d'accord?
Jeanne, il est 21h. Il y a pas mal de solutions qui ont été trouvées pour des jeunes, pour des mineurs.
Pour ce soir, on a eu des hébergeurs citoyens qui ont répondu, des hôtels qui ont été remplis. C'est rare des soirs comme ça, mais ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez rentrer chez vous?
Là, 21h, non, je vais pas rentrer chez moi. Ça arrive tous les soirs que des jeunes se présentent. Ils viennent d'Italie et ils connaissent rien à Paris et ils ont juste trouvé notre adresse ici. Vers 11h, 11h30, c'est possible qu'il y ait des jeunes qui arrivent encore. Donc, on aura encore, on leur trouvera une solution.
Vous avez hébergé combien de personnes aujourd'hui avec Utopia 56?
Je pense qu'on doit être à 75 mineurs isolés étrangers. Il y a eu quelques couples d'hébergés aussi.
Et vous pensez qu'il y a des mineurs isolés étrangers qui vont dormir dans la rue?
Oui, évidemment, ils vont dormir dans la rue parce qu'on n'a pas les moyens de faire des maraudes. Donc il y a des jeunes qui dorment dans les gares. Par exemple, là, ce soir, on a pu rencontrer des jeunes qui, hier, n'avaient pas connaissance des solutions qu'on pouvait leur proposer. Il y a aussi des jeunes qui se sont fait refuser du dispositif d'évaluation de minorité des jeunes et qui ne connaissent pas non plus notre local, donc ils vont dormir près de la Croix-Rouge à Couronne.
On dit qu'il y a environ 8 sur 10 qui sont refusés du dispositif du demi.
Oui, c'est énorme.
Parce qu'ils n'arrivent pas à prouver qu'ils sont mineurs, en fait.
Il y en a qui se font refuser au faciès, c'est-à-dire on les voit, on leur dit non, tu n'es pas mineur, or c'est interdit de faire ça, mais ça se pratique. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit, c'est des jeunes qui ont, pour certains, 14 ans. C'est plus rare, mais c'est vraiment des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans. Tu dors où? Where are you sleep? So you have solution or not?
Nothing.
Nothing? Stay here, you go after, ok?
Donc encore des gens qui arrivent.
Vous voulez réagir à ce reportage, Marie-Caroline Sagliou-Yatsimirski, Rachid Oujdi?
Il y a plein de choses en fait qui sont évoquées. Le fait de sortir du dispositif, en fait, c'est, je mets bien les guillemets, c'est présumé mineur. En tout cas, qu'ils soient mineurs ou pas, en fait, ce sont des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, donc qui doivent être mises à l'abri. Et puis, il a été question aussi durant ce reportage de l'hébergement citoyen solidaire qui se développe de plus en plus. Et on médiatiquement, on n'en parle pas. Parce que c'est pas anxiogène. Et il y a de plus en plus de citoyens qui, en fait, au lieu d'être dans une posture, donc dans du discours, agissent et donc se mettent à héberger.
Par le biais d'associations, notamment?
Pas forcément. Il y a par le biais d'associations, mais dans le cadre de démarches individuelles. Beaucoup, d'ailleurs, ce sont des gens qui sont sensibles à ces thématiques-là et qui s'entourent de professionnels du champ du social et également de psychologues, de juristes, pour, en attendant que l'aide sociale à l'enfance, encore une fois, entre guillemets, fasse son travail.
Des citoyens qui se substituent à l'État. Marie-Caroline Sagliou-Yatsimirski.
Oui, absolument. Alors, d'autant plus qu'à La Chapelle, Utopia 56 travaille juste à côté du centre d'accueil, du centre provisoire d'accueil, la Bulle, qui va disparaître d'ailleurs fin mars, pour être remplacé par d'autres dispositifs. Donc, on est à la porte de ce dispositif mis en place par la mairie de Paris. L'État est censé pallier aussi le manque d'un certain nombre de lieux d'accueil qui peuvent aider les éventuels demandeurs d'asile parmi ceux-là à rentrer dans la procédure d'asile. Ça laisse sur le carreau, entre guillemets, c'est-à-dire à la porte de cette structure trop petite, puisqu'aujourd'hui, seules 400 personnes peuvent y être abritées le temps de rentrer dans la procédure, des centaines de personnes, souvent effectivement des très jeunes. J'ai trouvé extrêmement intéressant de ce point de vue-là qu'on ait un cas, le cas de ce jeune Algérien.
Ali.
Différent de beaucoup d'autres cas. On y rencontre aussi des jeunes Soudanais, des jeunes Somaliens, Érythréens, etc. Chaque fois, le cas est très différent. Donc là, c'était un cas sur lequel on reviendra peut-être, qui n'est pas celui nécessairement que je rencontre personnellement d'ailleurs. Et voilà, donc il y a une demande énorme pour pallier la déficience actuelle de l'État pour recevoir cette population. C'est un accueil citoyen qui se met en place. Utopia 56 fonctionne, entre autres, sur... cet accueil citoyen.
Alors, il serait en France entre 15 000 et 25 000 mineurs isolés. Les chiffres varient.
Oui, ça dépend ce qu'on met dedans toujours. En fait, 25 000, c'est-à-dire que 25 000 qui, auprès de ces services d'évaluation donc, qu'on trouve sur chaque département, arrivent en disant qu'ils sont mineurs. Et si le chiffre varie entre 15 et 25 000, c'est que pour différentes raisons, pas forcément liées au papier, ça peut être aussi suite à des tests osseux notamment, on pourra évoquer ces tests osseux, ou un délit de faciès, comme c'est dit dans le reportage. Enfin, c'est très subjectif, donc toi j'estime que non, vu la tête que t'as, t'es pas mineur. Donc on en sort déjà 10 000 du dispositif et les 15 000 restants, ça ne veut pas dire qu'ils sont mis à l'abri. C'est-à-dire qu'en fait, l'institution reconnaît leur minorité, mais ne les place pas forcément, ne les met pas forcément à l'abri. Donc là, l'élasticité du chiffre. Quoi.
Vous évoquez les tests osseux, en quoi ça consiste ?
Alors à la base, les tests osseux, c'est un test américain qui a été fait dans le Middle West américain au milieu du siècle dernier. Et c'est à la base médical, c'est pour vérifier en fait le développement
du
cartilage. Voilà. Donc à la base, c'est pour voir la croissance du pré-ado, de l'ado. Aujourd'hui, concernant ces populations-là, il est utilisé pour les sortir du dispositif.
Est-ce que vous dites dans le documentaire, c'est que ce n'est pas fiable en fait. Il y a 15 mois.
Une variante de plus ou moins 15 mois. Donc ça fait un écart type de 30 mois. Quand on doit évaluer la minorité d'une personne, 30 mois, c'est beaucoup. Quoi. Et comme par hasard, généralement, les tests osseux, c'est souvent, du fait de l'écart type, on va prendre le chiffre le plus haut plutôt que le chiffre le plus bas pour permettre justement de sortir du dispositif de protection.
Alors un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif a été présenté en Conseil des ministres et doit être examiné début avril à l'Assemblée nationale. Un projet de loi contesté pour sa fermeté, notamment Marie-Caroline Yatsimirski. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors il y a un ensemble de mesures qui sont proposées et qui, à mon avis, sont des mesures qui apparemment pourraient proposer effectivement plus d'efficacité, mais qui sont souvent perverses. Alors je vais en retenir deux. En particulier, la question bien sûr des Dublinés, qui est une question absolument majeure. Si il est question de reconduire dans le pays où ils sont arrivés quasiment 40% des personnes qui aujourd'hui demandent l'asile, parce qu'elles y auraient finalement d'abord, c'est le premier pays d'arriver en Europe, donc le pays où elles sont censées finalement demander l'asile et où on est censé traiter leurs demandes. Il faut savoir que effectivement en France, la plupart des personnes qui sont arrivées sont passées ou par la Grèce comme premier pays ou par l'Italie bien sûr, qu'on y a souvent pris leurs empreintes de force, qu'elles n'ont pas l'intention d'y rester et que c'est pour elles un drame de se dire qu'on va les renvoyer là-bas. Tout le monde sait bien au niveau européen que ce sont des pays qui n'ont pas les moyens de traiter ces demandes d'asile, en tout cas bien moins que la France. Et par ailleurs, ça veut dire aussi pour certains d'entre ces personnes un renvoi direct au pays, ce qui pour beaucoup signifie la mort. Donc c'est une manière de ne pas traiter la question, de se renvoyer quelque part la patate chaude. Donc c'est une mesure qui est non seulement très problématique, mais également probablement irréalisable. On ne peut pas construire tous ces centres de rétention et enfermer un certain nombre de personnes, souvent des familles entières. Là aussi, gros problème de droit. Hein. Vous savez peut-être qu'il y a cet enfant de 13 mois qui est enfermé avec ses parents aujourd'hui dans un centre de rétention. Et là, on a le droit d'asile et la protection de l'enfance et, qui sont directement bafoués. Enfin, un ensemble de problématiques qui sont extrêmement complexes dans cette histoire et qui ne résolvent absolument pas la question finalement. Lorsque on a une population qui vient parce qu'elle n'a pas le choix, non pas tant pour tenter sa chance, mais parce qu'elle doit fuir, parce qu'elle doit partir, parce qu'elle n'a pas d'autre solution, et c'est au prix de sacrifices terribles, c'est au prix de pertes, c'est au prix de séparation familiale absolument dramatique. Il faut pouvoir l'écouter et non pas la renvoyer à la case départ, où d'ailleurs elle ne restera pas. La deuxième élément dans cette loi qui est très choquante, c'est la réduction du temps de procédure d'asile qui apparemment est intéressant puisqu'on sait très bien que l'attente est extrêmement délétère pour cette population. On ne peut pas rester des mois sans rien faire, juste à attendre une décision de l'État. En revanche, le fait d'avoir réduit le temps de dépôt, les possibilités de dépôt de la demande d'asile et les possibilités de temps de recours sont tout à fait dramatiques pour les demandeurs d'asile.
C'est ce qui est critiqué par beaucoup d'avocats, d'ailleurs.
Ils n'ont pas les moyens, tout simplement, d'avoir accès aux administrations. Ils doivent être accompagnés pour le faire. Il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de connaissances. Ils ne savent pas où aller. Ils ne sont pas assez informés. Lorsqu'on a été débouté par l'OFPRA, le temps de redemander, de faire un recours, finalement, à la CNDA, c'est compliqué, ça. Il faut être accompagné à nouveau par des instances juridiques. Et ça, un demandeur d'asile, c'est très complexe pour lui de le faire. Réduire ce temps-là, c'est lui donner moins de chance, c'est le terroriser encore plus. Donc ça choque énormément.
Rachid Oujdi, on va écouter un extrait de votre documentaire « J'ai marché jusqu'à vous », récit d'une jeunesse exilée. Un documentaire que vous avez filmé à Marseille, notamment au sein d'une SAMENA, le service d'accueil et d'accompagnement pour mineurs étrangers non accompagnés, et également au centre Image Santé où ces jeunes sont soignés par des médecins.
la ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. C'est révoltant. En tant que citoyen, on se dit, mais ce jeune, je vais le ramener chez moi, quoi. Je vais lui donner à bouffer, je vais le faire dormir, donner une douche, puis après quoi? Après quoi? Après quoi si les autorités ne font pas leur boulot? Après, il n'y a plus que l'initiative citoyenne. La création d'un réseau citoyen qui permette un hébergement, qui permette une prise en charge, en attendant que l'aide sociale à l'enfance fasse son boulot.
En fait, on est tous assez démunis, parce qu'on voit ce drame qui se passe sous nos yeux, et pour l'instant, on n'a pas de solution. On ne comprend pas pourquoi, en fait, la minorité, tant qu'on ne sait pas qu'ils sont majeurs, on ne considère pas... du coup qu'en attendant ils sont mineurs, et dans ces cas-là, pourquoi c'est pas la minorité qui passe en premier au niveau juridique pour pouvoir accéder à une mise à l'abri? N'importe quel mineur français qui est dehors, il va être mis à l'abri directement, quoi. Là, on est dans cette attente-là, c'est comme si, en fait, le fait qu'il soit étranger, eh ben, ça passait devant le fait qu'il soit mineur. Vraiment, avant de faire ce travail-là, je pensais même pas que c'était possible. L'idée générale, quoi, un mineur à la rue, non, en fait, ça n'existe pas. Et là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. Et nous, on est obligés de l'être aussi, parce qu'on les voit, les jeunes, et qu'on ne les met pas à l'abri.
Quand ils viennent manger ici trois fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sous pour se nourrir.
Et Nicolas, qu'il n'est pas ici, il doit rester dehors, dans la rue. Et qu'à cause de ça, il a attrapé une maladie de peau, qu'il est allé voir le médecin et que le médecin lui a dit, voilà, comment tu vis, dans quelles conditions. Il a dit que les conditions sont très mauvaises. Donc le médecin lui a dit, il faut que tu prennes une douche, il faut que tu restes dans un endroit propre, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne peut pas prendre la douche tous les jours, il doit rester dans des endroits qui ne sont pas propres lorsqu'il n'est pas à sa mina.
Il y a un café, des fois, où je supplie pour laisser mes affaires, ma couverture et mes habits. Parfois, il m'offre la chance de dormir sur place. Mais il y a trois jours, il m'a dit qu'à cause de l'été, il ne pouvait plus me garder. Donc, je me retrouve dehors.
Rachid Oujdi, vous qui avez réalisé ce documentaire, il y a de vrais risques pour ces jeunes, pour ces enfants, d'être à la rue?
Ah oui, bien sûr, comme n'importe quelle personne à la rue en situation de vulnérabilité. La rue abîme, quoi. On le sait. Alors souvent, quand l'hiver arrive, pour se donner bonne conscience, voilà, on a une pensée pour ceux qui sont à la rue, mais l'été est aussi dangereux que l'hiver. Et puis en dehors du climat lié à la météo, il y a le climat insécure de la rue, parce que les réseaux malveillants, eux, sont là et veillent. Les proies les plus faciles sont effectivement ces jeunes.
Les réseaux de traite, notamment.
Des réseaux de traite, des réseaux de délinquance, il y a des réseaux de prostitution, il y a aussi des pervers sexuels qui viennent faire leur marché. Certains de ces jeunes vont être à un moment obligés soit de se transformer en mules, soit de devenir délinquants alors qu'ils ne le sont pas, soit se prostituer pour gagner un peu d'argent, quoi.
Et une des questions aussi que pose votre documentaire, c'est qu'est-ce qui se passe pour eux à leur majorité, en fait, pour ces jeunes-là?
C'est, en fait, l'idée du film, c'était ça, c'est de montrer ce double paradoxe de nos institutions, c'est prendre du temps pour les mettre à l'abri, alors que je tiens à rappeler que du fait de cette Convention internationale de droits de l'enfant, la protection de l'enfance, il y a l'ensemble de succession de lois qui fait que toute personne de moins de 18 ans, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa nationalité, doit être mise à l'abri. Voilà, juste...
C'est la loi.
C'est la loi, voilà.
Et donc on est tous hors la loi, comme le dit une intervenante du documentaire. Rachid Oujdi, Marie-Caroline Saglio, Yatsimirski, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI pour continuer de donner voix à ceux qu'on entend peu et dont on parle beaucoup. A tout de suite, les voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7
milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Ils font apparition régulièrement dans nos journaux, sur nos pages Facebook et dans nos vies. Quand arrivent dans l'actualité des naufrages dans la Méditerranée ou des révélations terribles sur l'esclavage en Libye, nous parlons des migrants aujourd'hui. Après ces vagues d'indignation collective, que reste-t-il ? Que connaît-on vraiment de leurs histoires ? Nos deux invités du jour ont voulu donner la parole à des migrants, demandeurs d'asile, adultes et enfants. Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski raconte ce qu'elle vit et ce qu'elle entend dans son cabinet de psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne. Elle en tire le livre « La voix de ceux qui crient, rencontre avec des demandeurs d'asile » publié chez Albin Michel. Et Rachid Oujdi a réalisé un documentaire sur les mineurs isolés à Marseille, récit d'une jeunesse exilée. Et la musique composée pour votre documentaire retrace leurs histoires. « J'ai marché jusqu'à vous », c'est tout de suite sur RFI.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu jusqu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux.
C'est arrivé samedi soir à la frontière franco-italienne quand deux secouristes militants ont croisé une famille nigériane. Il y avait une maman portée par deux autres migrants et le papa qui portait deux enfants. La maman est enceinte de 8 mois et demi, du coup se prend la famille dans sa voiture. La maman se tord de douleur, les contractions ont commencé. Mais juste avant l'hôpital de Briançon, la voiture est bloquée par des douaniers. Contrôle, tension, une heure de supplice avant que la maman soit emmenée à l'hôpital pour accoucher d'un petit Daniel, né par césarienne. Le papa et les deux enfants, eux, avaient été conduits au commissariat pour être envoyés en Italie, mais l'hôpital, lis-je encore dans l'Humanité, a fait pression sur la police pour qu'ils puissent rejoindre la maman. Fin donc de l'histoire provisoirement, et bienvenue parmi nous au jeune Daniel, et son histoire pourra peut-être devenir un ralliement. Mais un bébé peut-il changer l'opinion ?
Une histoire relayée par Claude Askolovitch sur France Inter. Alors le secouriste Benoît Ducos a ensuite été convoqué par la police aux frontières pour déterminer son rôle précis. Et vous avez suivi cette histoire, comment vous réagissez ?
Alors oui, un bébé peut changer l'opinion, on le sait. Hein, l'histoire d'Elad a changé l'opinion d'ailleurs. Et en même temps, c'est une histoire qui arrive tous les jours, celle-là. C'est la fin du livre d'Aïdé Sabiran, hein, « Ce qui passe ». C'est ce que j'ai vu ce week-end encore avec une femme somalienne à la chapelle, justement, enceinte de 7 mois et demi et qui est à la rue. Donc on a des cas d'une vulnérabilité extrême, des femmes pour lesquelles c'est quasiment la double peine, hein, ces passages. Ce sont des routes et des trajectoires où elles sont d'une vulnérabilité extrême. Et oui, là-dedans naît la vie, finalement. Là-dedans, à un moment, on va permettre à ces naissances de se faire. Donc je suis personnellement heureuse que ce genre d'histoire soit relayée et comprise aussi, pour que des familles aient le courage de poursuivre leur chemin parce qu'il faut. Voilà, je suis...
Alors vous avez rencontré en consultation des migrants de très nombreux pays, Sri Lanka, Bangladesh, Guinée-Conakry, Érythrée pour ne citer que, avec chacun leurs histoires, mais à chaque fois des points communs en fait dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils vous racontent. Quels sont ces points communs finalement ?
Alors vous dites une chose très importante, il est absolument capital de revenir à l'histoire individuelle. C'est obligatoire, on a tendance à tout généraliser, à parler des Afghans, des Soudanais, comme si à chaque fois on n'était pas en face d'une situation critique qui fait que non, la personne ne vient pas tenter sa chance, la personne est obligée de partir, de faire quelquefois, quelque part, ce choix forcé, on va dire, de se séparer de sa terre avec déchirement, de se séparer d'un pays qu'elle aime souvent, de se séparer de sa famille, d'une partie de sa famille, et d'aller affronter sur le chemin la mort. Vous avez rappelé la Libye, passer par la Libye aujourd'hui, c'est passer par la torture, par les viols, par des formes de violence absolument extrêmes. Et ensuite, il va falloir passer cette fameuse mer, qui aujourd'hui, on le sait, est un cimetière. Donc, il faut rappeler les histoires individuelles, elles sont chaque fois différentes, et pouvoir les entendre, c'est aussi avoir un autre regard sur ces sujets qui ne sont pas des troupeaux qui se déversent en France. Donc je reçois bien sûr en consultation des personnes qui ont pourtant des points communs, puisqu'elles ont toutes vécu des violences extrêmes auxquelles elles n'étaient pas du tout préparées. C'est ça le principe du traumatisme, c'est cette effraction extrême, et ce sont souvent des violences humaines, autrement dit, ce sont des violences où la cruauté humaine est très présente.
Donc dans leur pays d'origine.
Absolument, dans leur pays d'origine, et il est bien important de rappeler que ces violences sont là dans les pays d'origine. Vous savez qu'à l'OFPRA, un des critères, hein, puisqu'on est dans une logique bien sûr
de
protéger des personnes qui dans leur pays d'origine ont vécu des violences, ce ne sont pas seulement des violences dans les pays de passage, où là sont redoublées quelque part ces violences, mais ce sont des violences dans le pays d'origine qui sont à nouveau des violences directement liées au pays totalitaires, liés aussi quelquefois à l'absolue famine et l'absolue vulnérabilité de certains.
Alors le traumatisme chez les patients que vous accompagnez prend différentes formes, différents visages. Certains vous racontent leurs cauchemars par exemple, d'autres ont des syndromes de déréalisation, différentes formes en fait. Le traumatisme.
Alors, cette consultation se situe dans un hôpital public, hein, l'hôpital Avicenne. En psychiatrie, il y a évidemment un syndrome du psychotraumatisme avec un certain nombre de symptômes. Donc là aussi, quelque part, on a des éléments communs et en particulier cette violence psychique qui effracte complètement le sujet. La pensée donne lieu à un certain nombre de symptômes, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont les cauchemars, ce sont les reviviscences, autrement dit un événement qui va revenir sous forme d'image et qui va happer complètement la pensée, l'événement violent, la mort des parents qu'on a vu, le viol, ce trauma qui revient absolument et qui empêche finalement de vivre ou d'adhérer à une réalité parce qu'on est pris par ces images de violence. Et puis cette idée donc qu'on est très dissocié du monde réel parce que pris à nouveau dans ces images. Et puis enfin, un élément qui me paraît extrêmement important, le trauma, surtout s'il a été le fait d'une violence humaine extrême, je repense aux tortures par exemple, isole terriblement psychiquement. On est seul avec cette violence et surtout on a perdu une partie de la confiance qu'on pouvait avoir en autrui. Et ça, c'est quelque chose de très partagé dans les traumas qu'on rencontre.
Et comment vous arrivez à mettre en confiance en fait ces patients, ces personnes? Comment vous parlent-elles?
Alors, je voudrais me différencier typiquement du travail de Rachdoujdi qui, lui, va à la rencontre de ces jeunes. Je suis dans un service hospitalier, ces personnes viennent nous voir. C'est tout à fait différent comme approche. C'est très difficile de franchir la porte d'un hôpital psychiatrique. C'est extrêmement chargé, extrêmement stigmatisé. Et si ces personnes viennent, c'est qu'elles ont l'impression de devenir folles. Tant la violence interne, psychique, les prend, tant les nuits sont insupportables. On est en face de personnes qui ne dorment plus du tout, ce qui est quelque chose d'insoutenable. Des personnes qui sont extrêmement angoissées. Et évidemment, la situation de la demande d'asile ou la situation politique sur le territoire français est extraordinairement anxiogène pour ces personnes. Elles n'ont plus de place. Elles n'ont plus de place dans leur pays. Elles n'ont plus de place en France. Elles n'ont plus de place dans leur communauté à nouveau parce que le trauma isole terriblement. On est seul avec cette violence. On a perdu sa famille. On est seul avec ces images atroces et on ne sait pas quoi en faire. Elles franchissent la porte de cet hôpital et elles viennent souvent demander un médicament. Aidez-moi à arrêter de penser, aidez-moi à dormir. C'est la première demande, souvent. Et puis, alors moi, comme psychologue clinicienne, même si je les mets en relation avec un psychiatre souvent, je n'ai pas de médicaments à leur offrir, en revanche, j'ai une parole. Et c'est là que quelque chose va se faire. Pourquoi ? Parce que commencer à mettre en mots avec un tiers qui est du pays d'accueil, ces violences, c'est tout à coup commencer à se dire que voilà, on est passé par là, qu'aujourd'hui on est vivant, on est en face d'un tiers et il y a peut-être quelque chose à construire.
Et certains sont assez sceptiques au début, vous demandent à quoi ça sert de raconter tout ça, à quoi ça sert de parler.
Alors, ce qui est assez et ce qui est toujours étonnant finalement dans ces consultations, c'est que ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, enfin le quelque chose se fait extrêmement rapidement. Il suffit en général d'une première rencontre pour d'une première consultation pour parler, pour s'apercevoir qu'en parlant, oui. Une possibilité de parole, une possibilité de mise en mots de tout ce qui s'est passé avec quelqu'un qui écoute, avec quelqu'un qui vous dit « j'entends ce que vous dites, c'est important que vous puissiez le dire, et ce que vous avez vécu, c'est important, il va falloir le dire ». Tout ça, ce sont des choses qui prennent très très bien. Et nos patients, à nouveau, ces patients-là sont extrêmement fidèles et ne ratent pas les rendez-vous. Ils s'installent complètement.
C'est des rendez-vous qui sont gratuits, hein, on précise.
Alors, c'est des rendez-vous qui sont effectivement organisés, hein, j'ai envie de dire, par l'hôpital public pour être gratuits. Oui.
Avec un interprète à chaque fois ?
Avec un interprète si le patient le souhaite, puisqu'il n'est pas du tout évident d'utiliser la langue du trauma pour un certain nombre d'entre eux. Qui, lorsqu'ils ont entendu dans leur langue quelquefois des massacres, ne peuvent plus redire dans leurs mots. Ces langues sont trop chargées. Donc effectivement, la moitié de mes consultations se fait avec des interprètes, médiateurs, dont la place est absolument centrale, bien sûr. Et puis l'autre moitié se fait dans une langue tiers, qui est une langue désamorcée quelque part, qui est souvent l'anglais.
Alors vous leur conseillez aussi de ne pas rentrer dans une forme de victimisation, alors qu'eux-mêmes doivent souvent montrer patte blanche, hein, l'administration française, se présenter comme victime. Pourquoi une telle démarche ?
Alors d'abord, je ne leur conseille rien, j'ai envie de dire. On les écoute. Et effectivement, la position de victime est une position très ambivalente. Ils sont, en tout cas en France et face à l'administration française, dans une logique de la preuve. Ils doivent prouver qu'ils ont été, qu'ils viennent d'un pays où se passent des horreurs, qu'ils ont été victimes d'un certain nombre de violences qui justifient finalement leur protection par la France. Ça, c'est toute la procédure de la demande d'asile. C'est une toute autre parole hein, qui se trame dans une consultation de psy, puisque là, on essaye d'entendre leur parole à eux, leur loyauté, leur conflit de loyauté pour certains, leur culpabilité, leur impossibilité d'être un survivant, souvent, alors que la famille est morte, leur douleur de séparation. C'est une toute autre parole. Et cette parole-là, j'ai envie de dire, c'est leur parole à eux, leur parole de vérité. Et celle-là ne peut pas être une parole de victime. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir retrouver l'acteur dans tout ça. Il faut pouvoir retrouver un sujet qui a dit à un moment « il a fallu que je parte ». Heureusement que je suis partie et maintenant d'ici je peux faire beaucoup plus de choses que si j'étais restée. Et ce sujet-là, il faut le retrouver.
Rachid Oujdi, vous racontez aussi, il y a des témoignages dans votre film hein, de mineurs. Est-ce que ces traumatismes dont on parle, vous les avez observés aussi ?
Bien évidemment. Et moi, mon rôle en tant que documentariste, ce n'est pas non plus, j'allais dire, éveiller ou travailler avec ces traumatismes. Il faut faire attention parce que je ne suis pas un professionnel de la santé et si un traumatisme se ressurgit comme ça et se réveille, qu'est-ce que je fais avec ce jeune ? Surtout qu'au moment où je le filme, il n'est pas encore mis à l'abri, quoi. Donc, faut vraiment faire attention. Donc, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, pour en fait à la fois désacraliser les outils que j'utilise, c'est que j'ai fait des ateliers dessin avec eux, avec un dessinateur de bande dessinée qui expliquait comment on construit une histoire, donc il racontait ce qu'il souhaitait, et ces ateliers de dessin étaient filmés. Et ensuite, on leur montrait les images, et je leur expliquais dans quel but j'étais là et pourquoi. Donc, du coup, c'était... participatif de façon volontaire, ce n'était pas une obligation. Et dans les lieux où j'ai filmé, j'expliquais que le travail que je faisais n'allait rien changer dans leur quotidien. C'est-à-dire, s'ils souhaitaient participer au film, ça n'allait pas accélérer la protection. Donc voilà, il y a tout un travail qui a été fait en amont pour expliquer pourquoi j'étais là et dans quel but. Et bien sûr, les traumatismes, on les sent, des fois c'est même juste dans les comportements. Et concernant les traumas sur ces jeunes, ce que je trouve aussi violent, c'est le fonctionnement de nos institutions qui vont aller réveiller ces traumas qui parfois sont étouffés, notamment justement quand on fait l'évaluation du jeune, on lui demande son récit de vie. par moments, ils peuvent pas raconter, quoi. Et donc, en fait, dans le cadre de ce fonctionnement, j'allais dire, institutionnel, très administratif, où on va dire, oh, mais son discours est un peu incohérent, ou décousu, ou il y a des choses qui vont pas. On oblige, en fait, la personne à revivre des situations traumatisantes qui, en fait, le rendent encore plus vulnérable. Et il a compris que si c'était un peu décousu ou incohérent, ça allait jouer en sa défaveur, quoi. Enfin,
c'est très complexe.
C'est d'une violence inouïe, quoi. Moi, j'ai participé à des récits de vie où il y a des choses effectivement qui se passaient. Et j'aurais pas aimé être à la place ni de l'interprète, ni du jeune, mais non plus à la place du travailleur social qui lui aussi se prend ça dans la figure et qui n'a pas de supervision derrière. C'est-à-dire que le soir, il rentre chez lui, je ne sais pas comment il fait pour dormir aussi. Hein.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez si vous souhaitez participer à l'émission au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
D'où tu viens? Est-ce que tu sais d'où tu viens? D'où je viens? Est-ce que tu sais d'où tu viens?
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Alors on va écouter tout de suite une chanson de rap réalisée dans le cadre d'un atelier Flow itinérant animé par le collectif Rancho All Stars avec plusieurs rappeurs, Youssouf, Mokus Diakité, Ibano, Malik Ouattara et Papi, ça c'est mon nom, c'est tout de suite sur RFI.
C'est mon nom, mon kiss déjà quitté. On m'a flotté, on m'a jeté, on m'a quitté. Tout est quitté, il est temps de se quitter, de se précipiter, de se comporter. J'ai tout quitté de tous côtés. Je veux la liberté, l'égalité, fraternité de tous côtés. Mon nom c'est mon kiss déjà quitté. Je veux la tranquillité, la tranquillité, la tranquillité. Youssouf, le ouf, je souffre pas, je souffle comme la tempête dans le micro. Parce que je viens de l'Ouest, parce que je viens d'Afrique, parce que j'ai perdu rien de tout avec mon frère Malik, Charlie, Khalifa, Sylvie. Yeah, yeah, yeah.
Ça c'est mon nom, ça c'est mon nom, laissez-moi me présenter. Ça c'est mon nom.
Je m'appelle MK, je suis fort comme les cailloux, je suis fort comme les balles des arbres. Un homme n'est rien sans le courage, un homme n'est rien sans sa mère. Zulu, Emily, Agathe, Elodie, merci à tout le monde de mon entier. Ça c'est mon nom, yes. Ça c'est mon nom, yes.
Chanson enregistrée dans le cadre d'un atelier avec des mineurs étrangers isolés en France. J'aimerais vous lire le message d'Amadou sur Facebook qui nous écrit depuis la Guinée-Conakry. Quand vous avez le titre de migrant, vous avez l'image d'une personne inférieure aux yeux des autres, quel que soit votre profil antérieur. Même quand vous êtes diplômé dans votre pays, si vous partez illégalement en Occident, on suppose que vous n'avez aucune connaissance et vous vivez en dehors de la société. J'aimerais vous interroger, Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, sur le traumatisme d'accueil. Puisqu'on a parlé des traumatismes aussi liés à l'expérience dans le pays d'origine, également à la traversée. Mais que se passe-t-il en France? L'un de vos patients vous dit « Ici, on ne m'accueille pas ». Et pour la majorité des personnes d'ailleurs que vous recevez, la France n'était pas une destination choisie. Alors comment se situe-t-il par rapport à ça?
Alors la France n'est pas une destination choisie, mais elle reste dans l'imaginaire un pays de droit. Et le pays des droits de l'homme. Donc il y a toujours cette contradiction qui est forte, c'est-à-dire que, en fonction des situations à nouveau, hein, qui sont à chaque fois différentes, mais c'est vrai que l'accueil est souvent limité, ne serait-ce que parce que ces personnes, on ne comprend pas très bien qui elles sont, elles sont vite rejetées, a fortiori si elles sont à la rue, c'est un réflexe, elles peuvent faire peur, ou à la nuit, elles vont susciter l'indifférence. Bon. Donc il y a cet accueil qui est terrible, et puis ce que dit votre auditeur, c'est également que, effectivement, arriver en France, pour beaucoup qui avaient un statut, une situation dans leur pays, ça suppose un déclassement qui est d'une violence sociale extrêmement fortes. Hein. Eux qui avaient une place dans leur société n'en ont absolument aucune ici. Et c'est psychiquement et narcissiquement des déclassements extrêmement complexes pour eux. Voilà, il faut pouvoir remonter ça, il faut pouvoir réussir à s'affirmer malgré cette violence qui est terrible.
Mmh. Rachid Oudji, on imagine que cette violence est d'autant plus importante quand on est mineur, quand on est enfant.
Je ne sais pas si elle est plus importante. Je pense que, pour faire le lien aussi par rapport au film, j'évoquais le dessin tout à l'heure. Le dessin est très présent dans le film pour signifier justement ce côté enfantin. Je pense que parfois, ils ne réalisent pas forcément ce qu'ils sont en train de traverser et que parfois, arriver ici... vu comment on se comporte avec eux, c'est là qu'on vient réveiller certaines choses dont ils n'avaient pas forcément conscience. Le trauma n'était pas encore, extériorisé, quoi. Mm-hmm. Et c'est nous qui allons en fait l'accentuer en disant oh, tout ce que tu as vécu, oh mon pauvre. Enfin, combien de fois on l'entend, quoi. Avec tout ce qu'ils ont vécu, oui, mais enfin ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est des warriors, quoi. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés jusqu'ici, en cours de route, il y en a beaucoup qui ont disparu, et en mer, et dans le désert, et maintenant aujourd'hui, on en parle pas
mais
encore
doivent
assez.
Continuer à
dans
nos
montagnes,
aujourd'hui.
En France, il y en a qui disparaissent. Là. À la fonte des neiges, là, du côté de Briançon, oui. Combien de cadavres on va trouver quand l'herbe sera verte?
Et le combat doit continuer jour après jour même. Une fois arrivé en France, on va accueillir un voisin tout de suite au standard.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour Barry.
Oui, bonjour.
Vous avez 30 ans, vous êtes originaire de Guinée-Conakry, vous êtes arrivé en France en août 2017 et vous vivez aujourd'hui, je crois, à Lille. On vous écoute, Barry.
Bah oui, avant tout d'abord, je veux dire bonjour à vos millions d'auditeurs et bonjour aux auditeurs de RFI partout dans le monde.
On est ravis de vous accueillir.
Ok, d'accord. Avant tout, je voudrais vous dire que ici en France, ce ne sont pas ce que nous on attendait qu'on a trouvé ici. Non, on a entendu que la France, c'est un pays de liberté, un pays de droits de l'homme. Quand on est arrivé ici, c'est tout à fait le contraire qu'on a trouvé sur le terrain, parce que quand tu viens ici, malgré tout ce que tu as vécu au cours de route, mais quand tu viens ici, on va te faire oublier ça. Le problème que tu vas retrouver ici, se retrouver en France, être sans papier en France, on ne peut pas l'expliquer, c'est dur.
Et vous avez vécu à la rue, je crois, à Lille pendant plusieurs mois.
Je suis arrivé en France. Moi, j'ai passé la nuit au dehors, sous une tente. J'ai fait trois mois et quelques. C'est quand l'hiver est rentré, que moi, j'ai eu une personne de bonne volonté qui m'a accueilli chez lui. Donc, non, j'ai fait trois mois et quelques. J'ai passé la nuit à Belle Étoile, sous une tente ici à Paris, ici à Lille.
Et pendant l'hiver, pendant une partie de l'hiver.
Oui, et là, pendant une partie de l'hiver.
Et là, vous êtes accueilli donc dans une famille, c'est ça, depuis décembre.
Oui, là, je suis dans une famille. Il y a une personne de bonne volonté qui m'a accueilli, c'est lui.
Et donc, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont vos espoirs pour l'avenir?
Mes espoirs pour l'avenir, elles sont maigres, hein, elles sont maigres, parce que moi, je suis comme tous les autres. On est dans une procédure qu'on appelle du blême, donc. C'est l'espoir, elle est maigre.
Vous êtes arrivé par l'Italie en Europe.
Bah, je suis rentré par l'Italie en Europe. Donc arrivé ici, vous savez, quand tu descends du bateau, et tu es obligé de mettre tes empreintes.
Et je crois, Barry, qu'aujourd'hui vous sensibilisez sur les réseaux sociaux par rapport à votre expérience. Qu'est-ce que vous racontez de vous? Quel message vous faites passer?
Moi je suis sur mon page Facebook, je sensibilise mes petits frères qui sont au pays, je les sensibilise, je leur dis que d'arrêter de rêver, parce que ce que les Africains pensent de l'Europe, la réalité qui est ici en Europe, ça fait deux, quoi. Donc moi je les sensibilise de ne pas vraiment risquer leur vie de venir ici en France. Mmh. En Europe tout entier, c'est pas la France seulement, parce que c'est la même chose, quoi. Partout où tu pars, c'est la même chose. On te rejette. Partout où tu pars, on te rejette. Moi, je suis diplômé dans mon pays d'origine, mais je suis venu en France pour pouvoir continuer mes études, mais il y a tous les problèmes. Et je suis confronté à tous les problèmes. Donc, vu tout ça, je ne vais pas rester calme sans sensibiliser mes petits frères qui sont en Afrique pour ne pas qu'eux, ils vivent ce que moi je suis en train de vivre ici en Europe.
Merci, merci beaucoup Barry pour votre témoignage et puis bon courage à vous. Alors on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que finalement cette situation, ces histoires au pluriel, puisqu'on a bien compris qu'elles étaient au pluriel, racontent de nous et de notre société ?
Ouh, vaste question.
Vaste question. Marie-Caroline Saglo-Yatsimirski.
Je crois que le fait d'avoir entendu des histoires et puis d'avoir entendu Barry nous rappelle un certain nombre de choses. Cette obligation de les entendre si on veut un petit peu comprendre et si on veut pouvoir aussi peut-être agir et sortir donc de cette vision des chiffres et du flux qui est d'ailleurs plein de faux sens. Hein. On est dans un chiffre finalement de personnes accueillies qui est à peu près stable depuis 10 ans. Non, ce n'est pas un flux gigantesque. En revanche, il y a une diversité culturelle inédite et ça, il faut être capable de la prendre en compte. Et puis enfin, les personnes qui sont sur le territoire français au prix de sacrifices à nouveau et de séparation très très douloureuse. Ces personnes ne partiront pas. Pourquoi ? Elles ont fait un chemin tellement long que maintenant elles veulent partir en Angleterre ou elles sont sur les territoires français et les accueillir est une ressource pour nous beaucoup plus intéressante que d'en faire des sujets qui provoquent et animent les peurs sociales.
Merci, merci beaucoup Marie-Caroline Saglo-Yatsimirski pour ce très beau livre aussi, La voix de ceux qui crient, publié chez Albin Michel, merci à vous. Rachid Oujdi, on peut voir votre documentaire sur Internet. D'ailleurs, on va mettre le lien sur notre page 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe de l'émission, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Sophia Bédard et également merci à Alexandra Sirgan. Et puis merci à vous, bien sûr, les voisins, les voisines, pour votre écoute, vos commentaires. Demain, 7 milliards de voisins, quand lire change la vie, à l'occasion du Salon du Livre qui ouvre ses portes à Paris, quelle place la littérature occupe dans nos vies. À demain.